Bonjour à toutes et tous. Pour aujourd'hui, les vicinales mettent le cap sur Illiers-Combray. Et que trouve-t-on à Illiers-Combray ? On y trouve un garde champêtre, bien sûr. On y trouve la seule paroisse de France qui ait tiré son nom de la littérature. On y trouve une lanterne magique dont s'est servi Marcel Proust. Et encore bien des choses, belles ou saugrenues, et parfois les deux ensemble. Nous y avons aussi notre peintre chinoise. Non pas qu'elle chinoise, non, mais elle pratique la peinture classique chinoise. Pour la petite histoire, elle est également praticienne en médecine chinoise. Et elle a publié un livre, La cuisine du Tao. Elle est notre invitée aujourd'hui pour nous parler de peinture chinoise. Bonjour Caroline Lawrence.
Bonjour Robert.
Alors, comment as-tu découvert puis appris la peinture chinoise ?
C'était à Buenos Aires. J'étais déjà intéressée par la philosophie chinoise. Lorsqu'une annonce dans le journal intitulée « Le Tao de la peinture » m'a interpellée, alors j'ai commencé avec ce premier maître.
Peut-on apprendre la peinture chinoise sans apprendre l'histoire de la Chine et la pensée chinoise ?
Bien sûr, oui, bien sûr, car on peut aussi la considérer comme une technique d'aquarelle. Mais on va quand même se devoir se plier à des rudiments philosophiques qui, par exemple, en frottant le bâton d'encre sur la pierre pour le diluer, est une première concentration. Le corps aussi doit être droit entre ciel et terre. Le poignet doit être souple et pour laisser passer l'énergie. Et surtout, il faut être présent à chaque point de la ligne que l'on trace. Ce qui n'est pas sans nous rappeler cette expression « ici et maintenant » qui est très usitée de nos jours. Toute cette approche du corps et de l'esprit nous dirige vers une concentration qui, avec l'aptitude, nous mène vers, on peut dire, une méditation qui nous procurera le plaisir de voir se déployer devant nos yeux une belle peinture. Certains iront plus loin dans leurs études philosophiques et historiques de la Chine et d'autres en resteront au plaisir de l'aquarelle.
En Occident, l'initiation à la peinture passe par nombre de figures imposées, le portrait, le paysage, le nu académique, la nature morte, etc. Or, je crois, rien de tout cela n'existe en peinture chinoise. Peux-tu expliquer à nos auditeurs de quoi est fait l'enseignement de la peinture en Chine, les bases du savoir ?
L'apprentissage de la peinture chinoise commence par connaître les quatre trésors du lettré, qui sont le pinceau, la pierre à encre, l'encre et le papier, et savoir s'en servir. Puis, avec patience, comme en Occident, nous apprenons à écrire les lettres de l'alphabet et puis à les unir pour en faire des syllabes, des mots, des phrases, nous apprenons à dessiner, pour le paysage par exemple, les différentes sortes de montagnes, les traits qui leur correspondent, les arbres, leurs troncs, les feuilles, l'eau sous toutes ses formes, cascades, rivières, bouillonnements, et ensuite viennent les brumes et les distances qui font intervenir les différentes nuances de l'encre.
La peinture chinoise utilise des pigments, bien sûr, mais aussi, comme tu l'as dit, l'encre. Peux-tu préciser pour nos auditeurs le détail de ce travail de l'encre ?
Alors, l'encre se présente sous forme d'un bâton que l'on frotte sur une pierre, sur laquelle on a déposé avec le pinceau un petit peu d'eau. En se diluant, le bâton devient encre liquide. Donc l'intensité de l'encre va dépendre de sa dissolution par l'eau. On commence toujours par peindre un tableau à l'encre faible, c'est-à-dire très diluée. Puis l'intensité de l'encre, donc plus ou moins diluée, sera différente pour donner un effet de profondeur. Par exemple, on utilisera de l'encre faible pour le premier plan du tableau, de l'encre moyenne pour le second plan et de l'encre foncée ou épaisse pour l'arrière-plan, en introduisant ces nuances d'encre dans chaque plan pour les parties ombragées et les parties ensoleillées.
Qu'est-ce qu'un occidental peut apprendre de la peinture chinoise ?
Eh bien, il apprendra à observer, il apprendra la patience, il apprendra par la maîtrise du trait au pinceau la précision, parce que nous ne pouvons pas gommer l'encre. Il apprendra l'adaptation afin d'équilibrer les traits, les choses, l'ombre et la lumière qu'il aura peint, et la joie aussi de découvrir qu'il peut peindre.
Le public français pourrait citer Courbet, Monet, Bonnard, mais aussi Garouste, Soulages. Pourrais-tu nous nommer quelques peintres chinois, tant classiques que modernes, dont tu penses que nous devrions tous connaître les noms, et peut-être nous dire quelques mots d'eux au passage ?
Alors, tous les peintres classiques sont intéressants, même ceux de l'époque Yuan, de la dynastie mongole du XIIIe siècle, dont les peintures sont plus naïves. Mais je parlerai de trois que j'affectionne particulièrement. Mifu, Mifei, qui a vécu entre le XIe et le XIIe siècle, qui était lettré, et qui a révolutionné la peinture chinoise de paysage en la sortant de son cadre académique, en peignant ses montagnes avec des taches, appelées d'ailleurs les points de Mifu, nous faisant pénétrer dans une atmosphère humide et vibrante. On peut aussi parler de Nitsan, qui a vécu au XIVe siècle. Il peignait à l'encre, très pâle, des paysages très dépouillés, qui nous invitent vraiment à la contemplation, à la douceur et à la stabilité. Évidemment, on ne peut pas évincer Shi Tao, qui nous a laissé un magnifique traité philosophique sur la peinture de paysage, qui s'appelle « Les propos sur la peinture du moine citrouille amère », qui lui introduit une quatrième dimension à l'œuvre, celle de l'énergie qui anime la peinture, composée, comme il le dit alors, d'un unique trait de pinceau. On retrouve dans cela l'idée qu'une seule et même énergie anime l'univers, les êtres et les choses. Je ne voudrais pas oublier non plus Santa Kien, ça fait un quatrième, qui est un des derniers lettrés chinois, qui excellait non seulement dans la peinture de paysage, mais aussi de lotus, 19e siècle. Et puis, pour les peintres contemporains, les deux sont abstraits, les deux auxquels je pense. Ils ont tous deux vécu en France, tous deux sont nés en 1920 en Chine, puis ils sont venus vers 1950 en France, et ils sont morts pour Cao Wuki en 2013 en France, et pour Chu Tae-chun en 2014. Tous les deux des peintres abstraits.
Je voudrais revenir sur Shi Tao. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle aussi le moine citrouille amère ?
Alors, tous les peintres se donnaient à eux-mêmes ou aux autres entre eux des surnoms. Donc, il a eu ce surnom de moine citrouille amère, sans doute parce que la citrouille est symbole de l'immortalité dans la religion taoïste. Et une citrouille amère est peut-être aussi, pour Shi Tao, symbole d'amertume devant le doute d'obtenir l'immortalité.
As-tu gardé un contact avec ton maître de peinture chinoise ? Es-tu retourné le voir ? Correspondez-vous ? Bref, comment entretient-on la flamme quand on est aussi loin géographiquement que tu l'es des sources de ton art ?
Je n'ai gardé contact qu'avec mon maître de calligraphie qui vit en France, à Paris, qui s'appelle Shipo.
Peux-tu nous dire quelle est la part de l'imagination dans la peinture chinoise, si tant est qu'il y en ait une ?
Plutôt que de parler d'imagination, il faudrait parler de spontanéité. Car en peinture chinoise, il n'est pas question d'imaginer une autre réalité que celle que la nature nous offre. Mais il est question de donner vie à ce que l'on peint. C'est-à-dire que nous appartenons, comme nous l'avons déjà dit, et nous vivons tous de la même énergie, que les Chinois nomment l'énergie universelle, le Yuan Qi. Le peintre n'est en fait que le moyen, par sa disponibilité, à laisser couler l'énergie dans son corps pour animer ce qu'il peint.
Tu as appris et pratiques la médecine chinoise. Quel lien vois-tu entre les deux domaines ?
Eh bien, les deux domaines appartiennent, ont la même origine. Ils sont basés tous les deux sur la philosophie du Tao, qui nous dit qu'une seule énergie existe, qu'elle est la même en toute chose, en tout être, et qu'elle donne vie à toute chose et tout être qui existe en fonction de l'alternance du yin et du yang. Yin et yang sont deux polarités complémentaires, Par exemple, dans la peinture, ce sera l'ombre et la lumière qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le yin est le froid, l'immobilité, les organes. Le yang sera la chaleur, la mobilité, les entrailles, en simplifiant énormément.
Quel musée peux-tu recommander en France ?
Eh bien, à Paris, nous avons le musée Guimet pour ses expositions permanentes, qui nous fait entrer dans l'art de toutes les dynasties, ainsi que pour ses expositions temporaires sur l'art chinois, coréen et japonais. Et puis le musée Tchernouski, qui lui aussi offre de très belles expositions d'art asiatique. Et puis toutes les expositions de peinture chinoise ancienne ou contemporaine, pour en comprendre le jeu de l'encre et du papier, en comprendre et ressentir.
Voilà, j'espère que ce court entretien aura ouvert votre curiosité sur cet art plusieurs fois millénaire. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Merci Caroline Lorenz.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Zaijian, zaijian.